Aujourd'hui, je reçois en studio une partie de l'équipe à l'origine de la création de l'Escape Game Sauf qui peut, qui est remontée de nombreuses fois à mes oreilles depuis que je suis dans le coin. Sauf qui peut, avec peu écrit en lettres P.E pour signifier perturbateur endocrinien. C'est un projet qui fait suite au long travail du réseau d'éducation à l'environnement de Lozère autour de la sensibilisation de la population sur le sujet des perturbateurs endocriniens. Pour une fois, je vais vous laisser vous présenter. Dites-moi donc du coup qui êtes-vous, d'où venez-vous et comment est-ce que vous avez rejoint ce projet ?
Alors, moi, je m'appelle Céline Duchesne, et j'ai rejoint ce projet parce que il y a quelques années, je dirais peut-être 3 ou 4, il y a eu une formation initiale sur les perturbateurs endocriniens donnée par Anna et Laurane, dans laquelle ils avaient besoin de travailleurs sociaux. Et à l'époque, j'étais animatrice du GEM, et donc j'étais invitée à cette formation à titre de ma fonction. Et puis, suite à cette formation, il y a eu des idées. Et puis, suite à ces idées, il y a eu des projets. Et puis, suite à ces projets, il y a eu des appels de motivation. Et moi, j'ai dit, bah ouais, je veux bien faire des trucs avec vous. C'est chouette. C'est un sujet qui me parle bien. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à passer ma vie autour des perturbateurs endocriniens.
Et tu as du coup quel rôle au sein du projet ?
Eh bien, j'étais co-conceptrice de l'Escape Game avec Laurent Solero et Émilie, que voici. Et ces derniers mois, animatrice de cet Escape Game de manière plus ou moins intensive en fonction des périodes.
Toi, Émilie, tu as rejoint naturellement le projet par le réel.
Exact. Donc du coup, moi, je suis coordinatrice de projet. Alors, on a un peu créé des pôles. Moi, je suis plutôt sur tout ce qui est santé, environnement, alimentation. Et donc, moi, je suis arrivée en cours. Hein, l'Escape Game était déjà en création quand j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans, maintenant, quasiment. Et c'était Coralie Atia au départ qui coordonnait ça avec Laurane. Et donc j'ai juste accompagné au départ Laurent et Céline pour un peu structurer l'affaire parce qu'ils avaient plein d'idées et tout était sur le papier. Il y avait encore des petits blocages. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir moi aussi donner mes idées. Et puis voilà, on a fait équipe autour de ça et ça me permet aujourd'hui de mieux connaître le jeu et du coup de pouvoir mieux le représenter aussi et pouvoir mieux en parler. De l'avoir intégré. En tout cas, c'était une belle aventure de conception. Faut se creuser la tête. Hein.
Du coup, le réel s'associe avec pas mal de partenaires et de gens pour faire une équipe sur l'Escape Game. C'est quoi l'équipe ? C'est qui l'équipe ? Est-ce qu'il y a trop de gens pour les citer ?
On aimerait
bientôt.
Ouais, c'est ça. Non, on aimerait. C'est vrai que du coup au départ, donc Céline, Laurent, il y avait Martin aussi qui a filé la patte, Christelle aussi, Pierre D. Et puis au réel, globalement, il y avait que moi qui suivais le projet. Et là, enfin comme disait Céline, ces derniers temps, ça a été assez intensif. C'était surtout elle qui a animé parce qu'on a un dispositif pédagogique pour ça qui est financé. Enfin, comme le jeu, hein, que ce soit la conception jusqu'à la diffusion, on a eu un financement de l'Agence régionale de santé de la région Occitanie dans le cadre ville et territoire sans perturbateurs endocriniens et le département aussi sur du fonctionnement. Et du coup, c'est vrai que là, à nous deux, c'était un peu... Enfin, on est en manque, quoi. Donc, en fait, on est en train d'ouvrir une formation qu'on monte avec le Grain Occitanie pour justement avoir un peu d'autres animateurs et pouvoir aller sur un peu partout sur le territoire. Parce que Céline s'est retrouvée à devoir faire du camping en Nord-Lozère pendant 2-3 semaines.
Pour animer ce magnifique jeu.
Et du coup, il serait plus forcément porté que par le réel, mais par plein d'autres gens qui seraient formés à le faire derrière.
Exactement. Après, nous, ce qui est pas mal, c'est que nous, on fait des demandes, on fait des réponses dans le cadre d'appels à projets. Ça permet d'avoir des financements et du coup de proposer à des structures une animation gratuite. Là, quand Céline intervient dans les lycées, ça leur coûte rien, si ce n'est de la gentillesse et d'ouvrir leurs portes et nous faire confiance. Mais sinon, financièrement, ça leur coûte rien et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est que c'est un jeu, si on le propose gratuitement, bah forcément, il est bien accueilli. Mais après, voilà, les animateurs, enfin Céline aujourd'hui est autonome sur le projet. Si elle a un prestataire qui effectivement souhaiterait faire jouer le jeu, elle peut l'animer et du coup faire rémunérer sa prestation.
Et comment on fait du coup pour créer un escape game ? Déjà, faut sortir l'idée, créer un escape game, c'est un peu fou dit comme ça. Mais est-ce que c'est du coup un casse-tête dans un casse-tête dans un casse-tête ?
Alors, en fait, à l'issue de cette première formation dont je parlais tout à l'heure, on a eu une petite séquence de ouvrez les vannes de l'imaginaire et dites-nous ce que vous pourriez rêver de plus fou. Le challenge étant, on a des informations qui sont pas forcément très faciles à diffuser parce qu'elles sont pas très confortables, qu'elles remettent en question les habitudes de vie de chacun, la société dans laquelle on vit, tout ça. Donc, il y a des enjeux importants et il y a des freins importants. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme biais pour arriver à amener ça de manière légère et acceptable, entendable ? Et donc, on a proposé plein de choses, dont cette idée d'escape. L'idée, c'est de mettre du jeu dans le sérieux et du sérieux dans le jeu. Et quand on a proposé ça, on pensait pas qu'on le ferait. Hein. On proposait des idées folles comme ça. Et en fait, en effet, on a relevé ce défi-là. En fait, ça a pris un temps fou. Hein. Ça nous a pris une année de conception, de travail, de réflexion.
Il a fallu se reformer derrière pour comment créer une énigme, comment créer un escape game.
Alors, c'est de la formation un peu continue. Hein. Il faut pas cesser de creuser. Et après, donc, dans l'équipe de départ, il y avait Laurent Solero qui, lui, est un grand joueur. Qui était plutôt sur le pôle comment on va créer du jeu, moi qui était plutôt sur le pôle qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien et sur quoi on peut s'appuyer, quels sont les messages scientifiques qu'on va faire passer. Et au début, on a réfléchi comme ça aux enjeux, aux messages, aux mécaniques possibles. On les a tournés dans un sens, dans un autre, on s'est fait des résidences où on passait plusieurs jours à essayer des choses. On a imaginé tricoter, détricoter. Après, Émilie est arrivée avec sa structure. Parce que nous, on est un peu comme ça, des artistes, comme ça, là, avec des idées, mais pas très structurés. Et Emilie a dit, ne vous inquiétez pas, moi, je vais faire l'ossature. Et donc, ça a été génial. Parce que d'un coup, les choses se sont mises en ordre, clac, 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 tout ce qu'on avait pensé a trouvé sa place, son arborescence, tout ça. Et à tous les trois, on a du coup fait beaucoup d'allers-retours. Hein. Ça n'a pas du tout été linéaire comme travail. Ça a été hyper circulaire. On a fait le tour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, essayer des trucs. On l'a fait essayer à des copains qu'on dit « Ah oui, ça marche, ça marche pas très bien. » Parce qu'il fallait que les messages soient clairs et pertinents et justes. Donc étayés par des sources quand même scientifiques non questionnables. Enfin non, comment on pourrait dire
Non, ouais, c'est ça.
Sûr, quoi. Il fallait pas qu'on dise de conneries. Il fallait qu'on soit clair, sûr de ce qu'on disait. Il fallait que les mécaniques de jeu soient diversifiées, intéressantes et suffisamment ludiques pour que les gens s'amusent. Et comme il y a plusieurs équipes, il fallait aussi que les choses aillent sur le même tempo, que tout le monde finisse à peu près en même temps. Voilà. Du coup, tout ça, c'est des ajustements et des essais, des tentatives, des échecs, des retentatives. Et finalement, au bout de cette année de tricotage, on a fini par faire quelque chose qui tient la route et qui est équilibré. Maintenant, on a plein de recul et de retour. Hein. On l'a animé des dizaines de fois avec des jeunes, avec des moins jeunes, beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes adultes, beaucoup de familles d'adultes. Et donc, on a des retours assez variés, assez représentatifs quand même de l'ensemble de la population à qui on s'adresse. Et il s'avère que nous sommes arrivés à un bon équilibre entre les informations véhiculées, la dynamique de jeu, qui est une vraie dynamique de jeu, dans laquelle les gens s'amusent pour de vrai. Voilà, je crois que ces deux dimensions sont atteintes.
Ouais, et c'est vrai, juste pour préciser, parce que tu parlais de... on est allé auprès de différents publics. C'est vrai qu'on a fait ça dans des milieux scolaires, mais pas que. On était aussi dans des événements grand public. Et du coup, enfin voilà, on n'attrape pas les gens de la même façon quand ils sont, entre guillemets, captifs, comme on aime bien les appeler, c'est un joli terme, dans une classe et qu'ils ont deux heures de créneau et en fait, ils n'ont pas le choix, versus dans un événement où les gens sont de passage et du coup, il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils viennent jouer pendant deux heures. Et il y avait ça aussi à cœur de le rendre chiadé, c'est un terme que j'ai appris ici.
Attractif, ça veut dire...
Non, mais c'est vrai qu'il en jette. On a fait appel à Christian Biujou pour ça, c'est un graphiste où on a vraiment joué sur cet aspect vintage. Il est assez flashy. Enfin voilà, visuellement, il donne envie. Et tout ça, ça faisait partie aussi de la réflexion. Enfin, dans la conception, c'est et qu'est-ce qu'on met aussi pour qu'il y ait l'effet waouh. Je me souviendrai toujours de ce terme qu'ils utilisaient tout le temps, Laurent et Céline. C'est, mais là, il faut qu'il y ait un effet waouh. Il faut vraiment que sur cette énigme-là, ils se disent, oh pétard, c'est génial. Et ça y est, on l'a tout le temps. On a ses retours sur chaque énigme. Après, on pourra peut-être présenter un peu comment le jeu se structure. Mais voilà, il y a vraiment cet effet waouh qui a été une recherche menée par les concepteurs. Et du coup, adapté en fonction, pour revenir sur le public, adapté en fonction du public, parce qu'on s'adresse pas voilà, de la même façon aussi. On est intervenu auprès de futurs professionnels, travailleurs sociaux et en santé. Il y a des endroits, il faut aller un peu plus loin en termes d'infos. Et il faut que le jeu puisse être adapté à une large tranche d'âge. Quoi.
C'était une de mes questions plus tard. C'est quoi le public cible de l'Escape Game? Parce que j'ai vu que c'était entre 8 et 30 ans dans les tables d'infos, c'est assez large.
En fait, tout humain bénéficierait à savoir ce qu'est un perturbateur endocrinien. Tout humain qui vit dans notre société aurait intérêt à savoir comment potentiellement prendre des dispositions pour s'en protéger. Donc la cible, elle est totalement large. Après, ce qu'on s'est rendu compte en faisant tourner ce jeu, c'est que en plus, ça on l'avait pas vraiment anticipé, mais on l'a réfléchi en continu. En plus, il est tout à fait modulable, c'est-à-dire qu'on le module, on l'adapte et on arrive à l'adapter à chacun des niveaux de maturité, de capacité de compréhension, d'écoute, d'acceptation. Donc, d'une forme au départ pensée pour être aboutie, on arrive à plein de formes de propositions en fonction de à qui on s'adresse, en sachant que il y a le jeu, mais il y a aussi tout le débat et la réflexion qui suivent le jeu. Et quand on est avec des étudiants infirmiers ou des étudiants en BTS GPN, on peut aller beaucoup plus loin au niveau de ce qu'on a à échanger, des questions, des réponses. Et là, c'est de voilà, en fait, le jeu est un support de communication sur ces sujets-là, qui sont des sujets vastes d'environnement et de santé. Hein.
Et surtout que pour eux, il y a une responsabilité, surtout sur des publics comme ça, pro, qui eux-mêmes vont être en contact de public et donc véhiculer ce qu'ils ont pu découvrir sur les PE. On leur met un pied de façon ludique avec l'Escape Game, mais effectivement, derrière, c'est comment dans leur métier, ils peuvent se saisir de cette thématique et aussi infuser sur le sujet. Alors que c'est vrai, quand on est auprès des lycéens ou du grand public, c'est vraiment nous, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter notre exposition?
J'ai les personnes qui étaient autour de moi qui me parlaient du coup que vous avez fait l'Escape Game, toutes avaient un point en commun, c'est qu'elles me disaient bah du coup j'ai arrêté de prendre des gobelets en plastique, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela, et pourquoi vous avez arrêté? Bah on a fait l'Escape Game, le perturbateur endocrinien, et on a arrêté après quoi.
Merci Léo, c'est bon d'entendre ça.
Bah, c'est les retours que
ça,
j'ai
entendus. Ça c'est du retour concret, c'est cool.
Mais du coup pour qu'on puisse bien se transporter dans l'univers de l'Escape Game, est-ce que vous pouvez nous le décrire comme si on était en plein, comme si moi j'arrivais là, j'arrivais, j'étais dedans, je faisais partie d'une équipe, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, comment ça se présente?
Bonjour, vous êtes en 2070, vous êtes dans un monde qui bientôt arrive sur le terme de son expansion, et il va falloir que potentiellement en 2020, l'époque dans laquelle vous vivez, vous puissiez résoudre des énigmes, terminer le travail d'un journaliste scientifique et
d'une chercheuse
qui ont à l'époque commencé à explorer cette question, qui ont commencé à rédiger un rapport pour le ministre de la Santé et qui ont été interrompus, qui ont dû se cacher, qui ont dû crypter leurs recherches parce que ça mettait trop à mal la société dans laquelle ils vivaient. Aujourd'hui, en 2070, vous êtes en capacité de revenir sur ces découvertes, de les poursuivre, de les aboutir et au final d'écrire un rapport pour le haut ministre de la Santé pour qu'il puisse prendre des dispositions pour préserver l'humanité.
Et du coup, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Il y a des tables, des pièces, des...
Autour de vous, il y a des images, il y a la reconstitution d'un appartement avec 6 pièces, une cuisine, une salle de bain, une chambre, un bureau, des kakémonos avec des images qui ont été fabriquées par le graphiste dont parlait Émilie tout à l'heure. Des objets posés sur la table, des couleurs. Sur chaque table, il y a évidemment, enfin sur chaque espace de jeu, il y a des indices dissimulés qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir mettre en relation. Il va falloir deviner de quoi on vous parle, ce qu'on attend de vous, mettre en lien les éléments pour arriver à résoudre l'énigme en question. Mmh.
Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis en équipe avec d'autres personnes? Combien on est sur dans la même pièce?
Il y a 3 équipes dans cette pièce. Dans chaque équipe, il y a minimum 3 personnes, maximum 5 personnes. Il y a 6 pièces et 3 équipes. Donc chaque équipe devra explorer 2 des pièces de cet appartement. Et quand ces 2 pièces auront été visitées et résolues, les 3 équipes aboutiront à la dernière étape, qui est une étape coopérative, collaborative, qu'on ne peut pas totalement vous dévoiler, car sinon nous enlevons le mystère de ce jeu, hein, n'est-ce pas? Mais dans laquelle, ensemble, vous allez aller au bout de cette mission. Et cette mission, c'est de devenir un ambassadeur en vie meilleure et de pouvoir œuvrer pour un... On a quand même le parti de pas mettre trop de responsabilités sur les épaules des gens qui participent. Ok, c'est pour ça que notre propos, il est pas péremptoire. On dit pas aux gens, il va falloir faire ceci, ceci, cela. On dit pas aux gens, le monde est en péril et vous êtes les seuls capables de le sauver. On dit, il y a des choses à faire, potentiellement, vous allez participer et être un élément qui va œuvrer pour du meilleur.
Pour être acteur, ouais. De toute façon, enfin, nous, c'est aussi nos valeurs dans le réseau d'éducation à l'environnement. On est là pour informer. Et c'est surtout le rôle de ce jeu, c'est d'informer où il se trouve dans notre quotidien. Et en fait, le côté immersif du jeu, enfin, on a plein de gens qui sont dans la salle de bain, qui disent « Oh pétard, j'ai ce produit dans ma salle de bain !» Ou on est dans la cuisine « Oh la vache, mais moi aussi, je mange des Pringles !» Bon, voilà. Et du coup, ça permet de se projeter tout de suite dans son quotidien et de concrètement se dire qu'est-ce que je peux faire parce qu'effectivement il y a une partie découverte du jeu où on retrouve où les PE, les perturbateurs endocriniens sont, mais après on a vite fait aussi qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est aussi ça l'enjeu.
Et on prend quand même le temps d'expliquer comment ils marchent, hein. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre corps, oui. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le danger des perturbateurs endocriniens.
Mais voilà, jamais de culpabilité, comme tu disais, on ne sait pas tout en plus, c'est un sujet qui est très complexe. En tout cas, on transmet ce qu'on sait et après on fait appel à l'esprit critique des gens et être en capacité de prendre une information, de la retourner. Et cette personne, si elle a enlevé ses gobelets, c'est parce que peut-être qu'il y avait quelque chose qu'elle a considéré et qu'il a marqué, mais c'est pas forcément la solution. Ça peut être celle-là pour elle, mais pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être complètement autre chose, quoi.
Est-ce qu'on peut échouer à notre mission dans l'escape game?
Non, nous ne sommes pas comme ça. On n'a pas du tout envie de mettre les gens dans des postures d'échec. Et donc l'idée, c'est aussi ce qu'on dit, c'est un escape game, mais c'est un escape game pédagogique. Notre but, c'est quand même, bien sûr, que les gens s'amusent, mais surtout qu'ils en ressortent grandis, en termes d'information en tout cas. Et du coup, on accompagne le jeu, hein. C'est une animation hyperactive en fait. Donc on accompagne pour que chaque équipe arrive à trouver ce qu'on lui demande. C'est très variable en fait, les réactions des équipes, et du coup c'est hyper important pour nous d'être vraiment présentes et d'accompagner la résolution, et tout le monde finit toujours par y arriver, bien sûr.
Et du coup, votre rôle d'animatrice est là pour créer une histoire, créer toute l'histoire autour de Escape Game, ou il est juste là pour donner des petits tips, des petits coups de main?
Les deux, mon capitaine.
Les deux.
Nous mettons une ambiance particulière, nous accompagnons les équipes de manière personnalisée, et puis surtout, on anime le débat derrière et l'apport d'informations.
Mais c'est une question qu'on aimerait un peu pousser, là, cette histoire du maître du jeu. Bon, voilà, on a eu des financements là, pour le concevoir, il tient la route et on l'anime, mais là, on a fait une autre demande de subvention pour pouvoir aller un peu plus loin et du coup, dans cette histoire de maître du jeu, voilà, pourquoi pas arriver déguisé, pourquoi pas vraiment incarner le rôle. Mais oui, globalement, le maître du jeu est indispensable dans un escape game, pour ceux qui en ont déjà vécu. Il y a toujours le coup de pouce et on a regardé où est-ce que le maître du jeu pouvait chaque énigme, à chaque fois ça avait été pensé, qu'est-ce que le maître du jeu pourrait amener comme indice pour sortir son groupe de la panade, quoi.
Il y a une rejouabilité, il y a des gens qui sont revenus refaire l'escape game une deuxième fois, une troisième fois.
Au moins trois fois. C'est-à-dire que moi, je l'ai animé là pendant 10 jours dans un même lycée, donc j'ai eu toutes les classes et pas mal de profs et de CPE et d'infirmières, enfin voilà. Et il y a des profs qui sont venus trois fois, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas fait les trois équipes, on ignore deux tiers du jeu. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu la frustration des gens qui venaient l'essayer. Ils avaient l'impression qu'ils allaient passer partout. Or, vu comment il est conçu, il nous faut déjà deux bonnes heures pour l'animer comme ça. Si on devait faire passer les gens à tous les pôles, il nous faudrait la journée. Donc, on a pris le parti de ne pas faire visiter toutes les pièces à chaque équipe. Donc, il est jouable trois fois, sans aucun ennui ni répétition.
Vous avez fait les premiers tests du coup en 2022. Vous avez fait combien de représentations en tout, si c'est comptable?
Ah oui, c'est comptable. Alors, on a fait 6 lycées. Là, du coup, on va bientôt faire le collège aussi de Florac. On a fait 3 événements grand public et après 8 interventions auprès de futurs professionnels et de santé et travailleurs sociaux. Donc, en moyenne, c'est ce qu'on disait, on est à 15 personnes par session de jeu. Et sur les lycées, par exemple, Céline va faire passer 3 groupes dans la journée. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 personnes qu'on a sensibilisées à la question.
Waouh, je ne connaissais pas les chiffres.
Moi, je suis tout derrière mon fichier Excel.
C'est trop bien les chiffres.
Ouais. Et c'est à peu près, c'est plus de 500 lycéens. En tout cas, sur la Lozère. Et voilà, autant de lycées privés publics qui ont ouvert leurs portes pour le jeu et qui ne m'attendent pas. Parce qu'après, il a été dans la conception, il fallait qu'il soit transportable et facilement adaptable, en fait. Parce que comme il se déplace, il fallait qu'on puisse se retrouver dans n'importe quelle pièce, quoi, et qu'on puisse le monter en peu de temps. Et...
C'est quoi les conditions
Alors, 40 mètres carrés.
40
mètres carrés, voilà, une fenêtre au moins, 9 tables, un accès Internet, un accès Wi-Fi, un accès aussi à un smartphone, parce que ça, c'était aussi un choix qui a été fait dans la conception. On utilise pas mal de QR codes dans le jeu, qui ramène un blog sur lequel il va y avoir des indices. Donc, c'est le blog du chercheur et de la chercheuse et du reporter. Et l'idée, ça va vraiment être un questionnement. Hein. Moi, je me souviens à la conception de...
On a beaucoup hésité.
Ouais, est-ce qu'on fait mettre le téléphone dans un jeu où justement on rêve d'un monde
meilleur, sans
numérique,
meilleur.
Ou en tout cas avec moins. Et en fait, on s'est dit, on va pas lutter contre, on va faire avec. Et c'est vrai que la plupart des jeunes, tout le monde est sur son téléphone et on va l'utiliser au contraire comme un outil, comme une ressource.
C'est un outil hyper pratique pour ce genre d'énigmes.
Mm. Exactement.
Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent à chaque fois d'une année à l'autre, d'une représentation à l'autre ?
Alors jusqu'à présent, moi j'ai l'impression d'être en perpétuel affinage, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis « Ah ouais, mais il faudrait faire plutôt comme ça, mais ouais, mais là-bas, pas. » Et il n'y a pas si longtemps, j'ai remodelé la fin... En cours de lycée, quoi, parce que ça m'apparaissait important de le faire. Donc, et à un moment, Émilie me disait, mais Céline, en fait, maintenant, il faut que ça s'arrête, hein. Le jeu est terminé. On arrête de les modifier. Donc, évidemment, on aurait toujours envie de l'affiner. Évidemment, il est perfectible. Néanmoins, il fonctionne très bien. Et c'est vrai que, par contre, on se régale dans l'adaptation des formats en fonction des publics. Du coup, on est quand même en réinvention permanente de qu'est-ce qui serait pertinent, qu'est-ce qui aurait du sens, dans quel sens, qu'est-ce qu'on met en avant pour telle et telle personne.
Mais du coup, c'est un peu l'objet aussi, je me dis, à la suite de la formation. Donc, on a des animateurs du territoire qui vont se former à l'outil. C'est après, effectivement, de les réintégrer et à force qu'ils soient utilisés. On avait déjà eu des pistes d'amélioration, genre par exemple dans la salle de bain, on ne parle pas de tout ce qui est protection périodique. Et il y a un véritable enjeu pour les jeunes aujourd'hui de comprendre ce à quoi ils s'exposent, que ce soit avec les tampons, avec les serviettes hygiéniques. Et c'est vrai que c'était un choix qu'on a fait de pas mettre au début, et peut-être que à terme c'est quelque chose qui sera par exemple dans le jeu, mais voilà, c'est des choses qu'il faudra re-questionner après, quand il sera vraiment conçu et que chaque animateur puisse amener un peu sa touche, en fait, sa petite patte, mais que dans la structure, le fond, l'ossature, comme tu disais, faut qu'elle soit figée, parce qu'en fait tout est lié, hein. C'est-à-dire que si on a utilisé tel produit, c'est parce qu'il a un rôle dans l'énigme. Donc si on change ce produit, on l'a vu sur les cosmétiques, enfin voilà, on a un graphe, si on change un des produits, ça modifie complètement l'énigme. Et donc du coup, ça veut dire faut se re-questionner derrière sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est du temps de travail.
Et on en a déjà passé un paquet.
Plus de, je sais pas, j'avais calculé. Enfin, c'est une année, mais c'est pas une année
continue. Hein, continue, on a pas fait voilà. Que ça, quand même.
Mais je crois que quand même globalement, on était à 5 mois bout à bout, 5 mois de travail à 35 heures, quoi.
En tout cas, l'Escape Game, il revient ce week-end pour le Floracopolis. Est-ce qu'il reste des places pour s'inscrire?
Ben c'est une très bonne question, c'est pas nous qui gérons l'orga, du coup je ne sais pas. Du tout, c'est le festival. En tout cas nous on leur a dit 15 max, et minimum 9, parce qu'en dessous de 3 par équipe ça peut pas fonctionner, enfin c'est quand même moins le fun.
Voilà, il y a quand même 3 passages dans la journée.
Donc c'est le samedi.
C'est le samedi, voilà, donc je pense qu'il y a de la place, hein. 3 fois 15... 45. On vient en vie à Florac, bon, ça devrait passer.
Et sinon, si des gens ont envie de participer et qui ne sont pas là ce week-end, comment ils peuvent le retrouver dans l'année?
Ben là, justement, on est en train de faire des demandes de subventions parce qu'il y a quand même des politiques publiques qui sont menées à l'échelle nationale et régionale sur les perturbateurs endocriniens. C'est pas des trucs où on est vraiment un des États en France qui sont assez avancés sur ces thématiques. Et donc, on a ce qu'on appelle des plans nationaux de santé environnement et des plans régionaux de santé environnement, donc en Occitanie. Et là, donc, il y a un appel à projet qui est sorti. Et donc, on va baliser justement quelles sont cette année, enfin, pour les 3 prochaines années, puisque ce sont des plans qui sont sur 3 ans. Quels vont être les axes de réflexion. On sait que les perturbateurs endocriniens sont la proue un peu là pour les 3 prochaines années, et donc on va déposer un dossier, et l'idée c'est de pouvoir continuer à financer des animations gratuites dans des événements. Par exemple, on a été au Salon de l'Artisanat Nature organisé par le CMA cette année. On a été aussi aux Assises de l'Alimentation organisées dans le cadre du PAT du département. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment continuer ces actions. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire financer. Donc, j'espère que d'ici les 3 prochaines années, je pourrai dire, sur des événements grand public, gardez l'oreille ouverte et on sera partout. Ou dans les lycées, vos ados vont pouvoir suivre le jeu. Mais pour le moment, j'ai pas de piste.
En tout cas, maintenant, avec l'expérience que vous avez acquis en créant cet outil Escape Game, est-ce qu'il peut être réadapté à d'autres thèmes, l'appliquer à d'autres thèmes complètement extérieur aux perturbateurs endocriniens sans prendre autant de temps de recherche et de création?
Alors moi, j'ai plein d'idées, hein, parce qu'il y a plein de trucs. Quand je suis dans les lycées, je me dis, ah ouah, faudrait que je leur parle des ondes, ce serait trop important, oh l'exposition, voilà. Donc il y a plein de choses à dire pour aider les jeunes à faire face au monde dans lequel nous vivons. Néanmoins, je pense pas que ce soit transférable. Après, c'est des mécaniques du coup qu'on a dans la tête, et peut-être cette expérience nous aiderait pour la prochaine, mais ça me paraît pas. Il faudrait refaire le chemin de réflexion, évidemment.
Si aujourd'hui vous deviez le refaire, vous ferez différemment, peut-être aussi même celui-là.
Bah non. Alors moi, je trouve que quand même, non. Moi, je trouve ça.
Ouais, on a bien réfléchi. On a fait des résidences, on s'est bien posé pour ça.
Ouais,
mais non. En tout cas, par contre, il y a des mécaniques de jeu qui sont, qu'on va retrouver dans beaucoup d'escape games. Enfin, ils ont beaucoup utilisé un site qui s'appelle Escape. Ce sont des enseignants justement, souhaitent un peu transmettre différemment, les informations. Et du coup, ils ont créé ce site internet sur lequel on a plein de ressources pour pouvoir créer des escape games. Et voilà, il y a des petites énigmes, des petites choses qu'on va retrouver dans beaucoup d'escape games qu'on a diffusé dans le nôtre. Mais après, enfin, c'est tout un scénario. Du coup, en fait, c'est pas du tout transposable. On s'est vraiment pris la tête sur l'histoire, comme il disait, le storytelling. Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens et où est-ce qu'on veut les amener. Donc, je pense que c'est un jeu à refaire à chaque fois.
Par contre, ce qu'on peut peut-être garder, enfin moi, ce que j'ai dans la tête et qui a été notre trame de fond, et parce que c'est un peu notre philosophie aussi, c'est essayer de mettre en perspective le monde tel qu'il était il y a moins de 100 ans, et le monde d'aujourd'hui. Et rappeler aux jeunes qu'en fait, il y a des gens qui ont vécu avant nous dans des conditions extrêmement différentes. Le monde a changé tellement vite que c'est difficile à appréhender pour des gens qui sont nés dedans. Hein. Et leur rappeler en fait, qu'il y avait du bon sens, des bonnes idées, des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que notre escape game, il est vintage dans sa déco, dans sa conception, dans ses accessoires, pour rappeler qu'en fait, il y a peu, le monde était différent et pas si bête que ça, en fait. Voilà. Et que potentiellement, même si, évidemment, on est dans l'époque dans laquelle on vit et que l'idée, c'est pas de tout jeter ni de tout mettre à mal, mais c'est intéressant de se rappeler qu'on n'est pas de nulle part, quoi.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet. Dans tous les cas, on se retrouve samedi 3 février à 11h, 14h. On vous retrouve samedi 3 février à 11h, 14h et 17h à la salle Paul Comte. Pour s'inscrire, je crois qu'on peut le faire par mail à l'adresse festivaljeuxflora@mailo.com ou alors directement sur place à la salle du conseil lors du festival. Je fais confiance à Ben pour remettre toutes les infos et quelques docs en ligne si les gens veulent se renseigner sur les perturbateurs endocriniens. Et merci à vous.
Ben merci.
Ben merci à toi.
Ouais.